Joël Pommerat est un auteur et metteur en scène français, né en 1963. Il crée sa propre compagnie, Louis Brouillard, au sein de laquelle il pratique l'écriture de plateau. Parmi de nombreuses autres œuvres, il crée trois pièces qui sont des réécritures de contes, Le Petit Chaperon Rouge, Pinocchio et en 2012 Cendrillon. Dans cette dernière réécriture, donc Cendrillon, il transpose le conte pour le théâtre et il en modifie un certain nombre d'aspects, notamment l'enjeu principal de l'histoire, puisque dans sa pièce, il va s'agir surtout du processus de deuil de la jeune fille par rapport à la mort de sa mère. Un enjeu qui est assez peu présent dans les contes, les versions antérieures du conte. Dans cette pièce, nous allons étudier les deux premières scènes, la scène 1 et 2 de la partie 1, qui sont, pour la scène 1, le propos initial de la narratrice, et la scène 2, la première scène incarnée entre la très jeune fille et sa mère au moment où celle-ci meurt. Nous allons nous demander en quoi ces deux premières scènes mettent en place l'histoire, et pour y répondre, nous allons voir dans un premier temps que ces deux premières scènes s'inscrivent dans le conte original tout en revisitant certains aspects. Et dans un deuxième temps, nous verrons que ces deux premières scènes mettent en place le problème central de la pièce. Je vais commencer par vous lire un extrait du texte. Il s'agit donc de la scène 1, la voix de la narratrice. « Je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire c'est de moi qu'il s'agit ou bien de quelqu'un d'autre. » J'ai eu une vie très longue. J'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour, j'ai même oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie a été tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pourrez m'entendre et peut-être même me comprendre. » Nous allons donc voir dans un premier temps que ces deux premières scènes s'inscrivent dans la reprise et la variation du conte pour faire commencer l'histoire. Tout d'abord, on va voir les éléments de reprise du conte qui sont présents dans ces deux premières scènes. Alors pour commencer, on peut voir que ces premières scènes s'inscrivent bien dans l'universalité de l'histoire, typique des contes, puisque nous avons des personnages qui ne sont pas nommés. Le personnage principal est uniquement désigné par le terme de « très jeune fille », ligne 29, ainsi que le reprend la didascalie dans la scène suivante, la très jeune fille. On n'a donc pas de nom donné, ni d'âge précis d'ailleurs, et cela contribue donc à l'universalité du propos qui va être tenu. D'autre part, on a aussi un éloignement spatio-temporel qui est annoncé dans cette première scène, puisque la narratrice explique qu'elle va nous raconter une histoire d'il y a très longtemps, ligne 2, et qu'elle-même a vécu et beaucoup voyagé, elle a vécu dans des pays tellement loin. On a donc bien ici l'idée de l'éloignement spatio-temporel qui peut évoquer le « il y a très longtemps » qui fait commencer les contes traditionnels. On peut aussi voir, comme reprise des motifs du conte dans ces deux premières scènes, le caractère fictif et le caractère oral qui sont très largement assumés dans ces premières scènes, puisque la narratrice insiste beaucoup sur le terme d'histoire, et puis déjà on a une narratrice, donc ce qui évoque le dispositif de l'histoire racontée. Elle insiste sur le terme d'histoire, donc ligne 2, je vais vous raconter une histoire, ligne 16, dans l'histoire que je vais raconter, et même cette histoire est inscrite dans un pluriel généralisant à la fin de la scène 2, ligne 104, pour les histoires, vous le verrez, pour les histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. La narratrice donc insiste sur le fait que cette histoire est une fiction, c'est une histoire qu'elle raconte, et non pas une histoire vraie. Elle insiste également aussi sur la dimension orale de ce qui va se passer sur scène, puisque elle brise le quatrième mur en s'adressant au spectateur. Je vais vous raconter une histoire. Si vous avez assez d'imagination, ligne 7, on a donc bien ici un dispositif de discours adressé de la narratrice au spectateur. On peut voir aussi que le langage utilisé est très simple, assez répétitif, en fait tout à fait oral, puisqu'on a l'absence de négation dans certaines phrases, comme par exemple ligne 23, c'est pas si simple de parler, et ligne 63, c'était pas si simple. On a donc ici deux scènes qui reprennent certains motifs du conte, mais on va voir maintenant que certains aspects du conte sont revisités, sont transformés. La principale dimension qui est transformée ici, c'est la voix de la narratrice, qui, au lieu d'un personnage, d'une instance narratrice très simple comme dans les contes, est ici un vrai personnage, justement, avec une dimension inquiétante et étrange. Premièrement, effectivement, on peut voir que cette narratrice semble avoir oublié son identité, puisqu'elle explique « je ne me rappelle plus si c'est de moi qu'il s'agit ou de quelqu'un d'autre », et elle explique également qu'elle a oublié la langue que sa mère lui avait apprise. On a donc ici un personnage de narrateur qui a une identité, mais cette identité est confuse, et elle semble frappée d'une sorte d'amnésie. Un autre aspect inquiétant de cette narratrice, c'est sa vieillesse extrême, puisqu'elle explique par deux fois qu'elle a eu une vie très longue. J'ai une vie très longue, ligne 6, et ma vie a été tellement longue, ligne 9. Elle répète qu'elle est devenue tellement âgée, ligne 10. On a donc ici l'idée d'une narratrice extrêmement vieille, ce qui a même des répercussions sur son corps, puisqu'elle explique que son corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume, ligne 10 et 11. Et cette comparaison peut être à la fois effrayante, si on imagine un corps presque transparent tellement il est vieux, ou très poétique, si on imagine que c'est ici une image de l'ange avec la comparaison avec la plume. Dans tous les cas, cette narratrice est tellement vieille qu'elle est désincarnée, puisque son corps n'apparaît pas sur scène, comme l'indique la didascalie, hein, c'est la voix de la narratrice, et la liste des personnages au début du livre indique bien qu'on a une narratrice dont on n'entend que la voix, et un homme qui fait des gestes pendant qu'elle parle. On a donc un personnage qui n'est pas présent physiquement sur scène, qui est uniquement une voix, et qui a une double forme, puisque la voix est une voix féminine, alors que le corps sur scène est un corps masculin. On a donc ici une narratrice qui est dédoublée, qui est fragmentée ou dédoublée. Voilà. On peut donc dire que ces deux premières scènes mettent en place l'histoire en s'inscrivant dans la reprise et la variation de certains éléments du conte, comme on l'a vu. Et puis nous allons voir maintenant que ces deux premières scènes posent le problème central de toute la pièce. Et tout d'abord, on peut voir que ce problème central passe par l'annonce d'une prophétie presque tragique dans ces deux premières scènes, puisque la narratrice annonce le nœud central, le nœud tragique de la pièce, qui sont les mots. Elle le dit à la ligne 17, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques, et ici ce terme catastrophique renvoie à l'idée de tragédie, de destruction, de catastrophe. On peut aussi voir le danger qui est annoncé, les mots sont très utiles mais ils peuvent être aussi très dangereux, ligne 19. Et enfin le contexte tragique qui est la mort annoncée dès le début de cette pièce avec donc le très grand malheur, ligne 27, un malheur qui arrive heureusement que très rarement aux enfants, et ce malheur c'est donc évidemment la maladie mortelle de la mère qui est annoncée, ligne 30. Cependant, cette prophétie presque tragique, elle n'est pas totalement tragique, puisqu'en fait, la narratrice nuance la gravité de ce qu'elle annonce avec la précision, ligne 17, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques, c'est donc qu'elles ne vont pas avoir des conséquences catastrophiques, et le malheur dont la jeune fille est frappée, heureusement, n'arrive que très rarement aux enfants, ligne 28. On a donc ici l'opposition entre malheur et heureusement qui vient soulager la dimension tragique qui est annoncée. Enfin, on peut voir que ces deux premières scènes annoncent le quiproquo qui va former le cœur de toute la pièce, avec donc les indications de la narratrice dans la première scène, qui annonce dès la ligne 13 et 14, la distance qu'il y a entre entendre et comprendre, puisqu'elle dit au spectateur « je sais que vous pourrez m'entendre » et peut-être même me comprendre. On a donc ici un doute sur le fait que entendre puisse correspondre totalement à comprendre. Ce problème est mis en application dans la scène 2 immédiatement, puisqu'on a le dialogue entre la très jeune fille et la mère, qui est en fait un dialogue de sourds, un quiproquo, puisque d'une part, la mère est inaudible, comme l'indique la didascalie, la mère est très faible, ligne 40, elle est ensuite inaudible, ligne 51, à nouveau inaudible, ligne 56 et 58, puis ligne 63, elle est découragée, elle détourne son visage et ferme les yeux, elle coupe donc la communication. Voilà, donc la communication est difficilement émise par la mère, et d'autre part, elle est difficilement reçu par son destinataire, la très jeune fille, puisque la très jeune fille semble effectivement confondre les mots, comme la narratrice l'indiquait dans la scène 1. La narratrice avait annoncé que les mots ont plusieurs sens, ligne 21, et que d'autres mots se ressemblent tellement qu'on peut les confondre, ligne 22. Donc elle avait indiqué les problèmes de polysémie et les problèmes d'homophonie qui peuvent créer les quiproquos. Et c'est effectivement ce qui se passe dans la scène 2, puisque la très jeune fille comprend dormir à la place de mourir, ligne 55, et mourir, ligne 53. Puis, quand la mère dit « je vais m'en aller », ligne 56, la très jeune fille comprend « fatiguée ». Et quand la mère réitère et dit « je vais m'en aller pour toujours », la très jeune fille comprend « et que tu dors le jour ». On a donc bien ici la mise en application du problème d'homophonie, de ressemblance phonétique entre les mots. Cependant, cette homophonie, elle est quand même très très peu crédible, puisque les mots se ressemblent en fait assez peu. On peut donc se demander si ce quiproquo, il n'est pas volontairement causé par la très jeune fille, dans une forme de déni psychologique de comprendre ce que sa mère lui dit. On peut aussi supposer que ce quiproquo est causé par les euphémismes employés par les adultes pour parler de la mort, puisque la narratrice nous explique qu'on dit à la très jeune fille, ligne 69, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait. Et ici, l'emploi du verbe « voir » est trompeur, puisqu'en fait, il s'agit d'un euphémisme pour désigner la mort imminente de la mère de la très jeune fille. Mais on voit que cet euphémisme va avoir des répercussions, puisque la très jeune fille va croire ou dire qu'elle croit que sa mère va rester en vie quelque part dans un autre endroit. Ligne 88, tu resteras en vie dans un endroit secret, invisible, tenu par des oiseaux. Voilà, donc on a bien ici un quiproquo qui se met en place avec ses différents ingrédients. Cependant, on peut douter de la véracité de ce quiproquo, puisque l'émotion de la très jeune fille est très visible. Hein. On nous dit qu'elle est très émue, ligne 77, au moment où elle voit sa mère pour la dernière fois. Et son insistance à vouloir parler, malgré le fait que son père l'entraîne vers la sortie, montre bien qu'elle a saisi l'enjeu de ce moment, ainsi que l'emploi du verbe mourir, qu'elle emploie deux fois. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu mourras pas en vrai, ligne 86, et ça te ferait mourir en vrai, ligne 90. Donc malgré tout, l'emploi du verbe mourir, même dans une tournure négative, montre que la très jeune fille a compris qu'il était question de mort, et non pas simplement de dormir ou de voir pour la dernière fois quelqu'un. Cependant, ce quiproquo, donc, même s'il est un petit peu factice, un peu caduque, il fonde toute la pièce, puisqu'il va donner lieu à une promesse avec la parole performative de la très jeune fille qui dit à sa mère « je te promets, ligne 85, que je penserai à toi à chaque instant. » Donc ce quiproquo, même faux, fonde le serment de la très jeune fille qui va l'empêcher de vivre dans toute la suite de la pièce. Cette double scène initiale donc permet de faire démarrer la pièce, elle met en place l'histoire en inscrivant l'histoire dans son texte source qui est le conte, dont il modifie certains aspects, et en annonçant l'enjeu véritable de la pièce, qui lui est bien différent de l'enjeu du conte original, puisque c'est le quiproquo et le deuil.